Bonjour chers éditeurs, nous sommes dans notre deuxième émission consacrée à Thomas Becket avec Georges Bonnebas, historien, qui dans notre précédente émission nous a présenté Thomas Becket, ce saint chartrain qui apparemment nous venait de loin mais qui a beaucoup de liens avec Chartres. Georges Bonnebas avait retracé la vie de Thomas Becket avant son accession à l'épiscopat, sa vie en tant qu'archevêque où il va faire un changement radical dans son mode de vie, il portera même le calice, je pense que Georges Bonnebas nous... Cilice, pas le calice. Le calice, oui, quand il célébrait la messe, et le cilice pour se mortifier. Et Becket va s'exiler parce que le roi avec lequel il était en très bonne entente, dont il avait élevé le fils, Henri, il va quitter l'Angleterre. Il va s'exiler pour se mettre à l'abri parce qu'il pensait que sa vie était trop chère pour être sacrifiée si tôt. Et je crois qu'on s'était arrêté peu de temps avant l'assassinat de Thomas Becket.
Oui, on s'est arrêté en 1167, au moment où le pape Alexandre III est en train, en quelque sorte, de commencer à lâcher Thomas Becket et surtout l'intransigeance de Thomas Becket. Le pape, avec le concours du roi de France, Louis VII, va encourager... trois rencontres au moins, au total il n'y en aura six, mais il n'y en a que trois qui comptent véritablement, entre Henri II et Thomas Becket. Rencontres qui eurent lieu d'ailleurs pour trois d'entre elles, dans le diocèse de Chartres, une première à La Ferté-Villeneuil, une deuxième à Montmirail, une troisième à Frédéval. Elles s'échelonnent dans les années 1168, 1169 et 1170, jusqu'en juillet 1170, peu avant donc l'assassinat. Et les réunions ne se sont pas bien passées, en particulier parce que Henri II a refusé de donner à Thomas Becket le baiser de paix. Il aurait dû le faire, il a refusé de le faire. Thomas Becket a bien senti à ce moment-là, au témoignage des contemporains, que son retour éventuel en Angleterre risquait d'être dangereux pour lui. Néanmoins, pressé et par le roi et par le pape, Thomas Becket est revenu en Angleterre. Nous sommes là... En septembre 1170, et il a l'intention, visiblement, de ne pas céder un pouce des prérogatives acquises antérieurement. Ça va être sa perte, car une bonne partie de l'Église d'Angleterre ne suit plus Thomas Becket. Le conflit a assez duré. Le pape Alexandre III avait envoyé en Angleterre deux légats pour convaincre, évidemment, le clergé aussi d'accepter certains accommodements, certains arrangements, en reportant à plus tard un règlement définitif de la question. Ça se fait souvent comme ça dans n'importe quelle négociation. Et on avait l'impression que les choses allaient bien finir. Malheureusement, Thomas n'a pas changé d'options. Et il l'a vu arriver, entre autres, après divers évêques qui ont tenté de le convaincre, il a vu arriver aussi des chevaliers, des laïcs qui sont venus lui reprocher d'empêcher le roi de gouverner convenablement, des vassaux. Parmi eux, il paraît que certains auraient entendu une phrase qui est très sujette à caution, mais qui donc me débarrassera de cet évêque ? Voilà. C'est sûrement un petit peu plus compliqué que cela, parce que les quatre chevaliers qui l'ont assassiné, Thomas Becket, s'étaient vus antérieurement, quelques semaines avant, en Normandie. Et donc, ils avaient prémédité leur coup. Ils reviennent eux aussi en Angleterre, et en Angleterre, là, Thomas, ayant pénétré avec l'un de ses clercs, Edward Grimm, dans la cathédrale de Canterbury, eh bien, il a été attendu par ces assassins qui s'étaient équipés, violant donc l'espace sacré de la cathédrale, afin de le contraindre à accepter. Malheureusement, car il n'avait peut-être pas l'intention de l'assassiner à l'origine, mais l'un d'entre eux a levé l'épée, il a blessé Edward Grimm, et le coup d'épée est venu s'enfoncer sur le crâne de Thomas Becket, devant l'autel de Saint-Benoît. Le futur évêque de Chartres, Jean de Salisbury, était présent. Voilà. C'est pour ça aussi que nous sommes bien renseignés ici du point de vue chartrain, et que ce Jean de Salisbury écrira toujours dans les actes officiels qu'il rédige qu'il est évêque de Chartres, mais par la grâce divine et par les mérites du bienheureux martyr Thomas. Et il ne dit même pas évêque, d'ailleurs, dans la plupart de ses textes, il dit humble ministre de l'église de Chartres. Voilà. Il est présent. Néanmoins, c'est un témoignage, puisqu'il a écrit une vie en latin de Thomas Becket, qui est tout entière dans le vitrail. Hein. Le vitrail légendaire puise ses renseignements dans cette vie-là, et seulement dans cette vie-là. C'est pour ça qu'il nous intéresse ce vitrail légendaire. Jean de Salisbury n'a pas toujours suivi aveuglément Thomas Becket, lui reprochant non pas vraiment son intransigeance à défendre les intérêts de l'Église, mais la façon dont il s'y prenait, le vocabulaire qu'il utilisait, le ton sur lequel il s'adressait à d'autres évêques, voire même au pape lui-même. Et évidemment, quand on demande aujourd'hui, car les Anglais sont bien renseignés, il y a eu une enquête faite en 2006, donc quand on demande aujourd'hui aux Anglais quelle opinion ils ont de Thomas Becket, eh bien, à 60%, ils en ont une opinion négative et pas du tout une opinion positive. Et ils lui reprochent principalement son jusqu'au boutisme, dirait-on aujourd'hui, et le fait qu'il a divisé la nation anglaise. À vrai dire, là, les Anglais se trompent beaucoup, hein. Elle n'était pas très anglaise encore, la nation anglaise, hein. Mais malgré tout, ça n'est pas un personnage qui fait l'unanimité. En France, les choses sont différentes. Thomas Becket passe pour le grand martyr du Moyen-Âge. Au point d'ailleurs que nous avions la pièce d'Anouilh, hein, et le film britannique avec Peter O'Toole est une adaptation du point de vue présenté par Anouilh et non pas le point de vue des historiens d'aujourd'hui, qui constatent que en fait l'attitude de Thomas Becket a été très franchement suicidaire.
Thank you.
Georges Bonnebas vient d'en finir avec la vie de Thomas Becket, assassiné dans sa cathédrale, et nous lui laissons pas la parole pour qu'il continue à raconter comment les reliques de Thomas Becket vont arriver à Chartres.
Oui, les gens de Salisbury, donc, que j'ai évoqué antérieurement, a ramené des reliques, évidemment, avec lui. Il était son secrétaire et il avait la garde-robe, il avait des objets ayant appartenu aux martyrs de l'Église. Ces reliques, elles sont en définitive en assez petit nombre. Nous savons que Jean de Salisbury a donné des vêtements liturgiques à l'abbaye de Saint-Père, il a donné des vêtements liturgiques aussi à l'Hôtel-Dieu de Châteaudun, mais il a donné à la cathédrale de Chartres peut-être des vêtements liturgiques, mais ça on ne le sait pas directement. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il a donné un reliquaire du sang de Thomas Becket et surtout un couteau qui n'était pas, hein, le, comme on l'a cru pendant un moment, l'arme du crime, hein, mais qui était un couteau de chasse ayant appartenu à Thomas Becket. Et avec Jean de Salisbury commence véritablement, nous sommes en 1176, la tentative d'implanter le culte de Thomas Becket dans le diocèse de Chartres. Le culte de saint Thomas Becket s'est parfaitement bien implanté en Normandie. Il s'est implanté dans toute la France de l'Ouest. En gros, on peut dire dans le domaine plantagenet, ce qui était normal. Une forte concentration, évidemment, dans la région rouennaise, dont était originaire le père de Thomas Becket. Dans le diocèse de Chartres, ça n'a pas été tout à fait le cas. On constate qu'en dépit de la présence donc de Guillaume Blanchemain antérieurement, puis de Jean de Salisbury, puis de Pierre de Selles, qui fut le successeur de Jean de Salisbury et l'ami de Thomas Becket, eh bien, on a en tout et pour tout que 3 chapelles sous le vocable de Thomas Becket. L'une est en fait une fausse chapelle, c'est celle de Chartres. Ça n'est pas une chapelle indépendante à l'origine, c'est la crypte de l'ancienne église Saint-Saturnin qui a été transformée en chapelle Saint-Thomas Becket. Il n'y a pas eu une élévation particulière, une construction particulière en son honneur. Et c'est après la destruction de l'ancienne église Saint-Saturnin et son implantation à l'intérieur de la ville que dans l'ancien cimetière de Saint-Saturnin, on a élevé la chapelle à l'emplacement de l'ancienne crypte. Une deuxième chapelle a existé dans la forêt de Marchénoir, à l'ombre donc de l'abbaye de l'Aumône, et vraisemblablement donc à l'usage des frères converses de l'abbaye de l'Aumône. Aujourd'hui, elle n'existe plus, dans un hameau qui lui aussi a disparu. Et la troisième se trouve, alors existe toujours, elle est privée aujourd'hui, elle se trouve à Thimère, en Eure-et-Loir, donc à l'entrée de Châteauneuf-en-Thymerais, et elle passe pour avoir été la fondation d'Édouard Grimm, vous vous souvenez, le clerc présent qui a reçu le coup d'épée sur le bras et qui aurait offert comme relique à cette chapelle un bout de la cervelle de Thomas Becket. Donc 3 chapelles seulement, aucune église sous son vocable. À vrai dire, c'est un bilan un peu ambigu parce qu'on peut se dire nous sommes à la fin du XIIe siècle et déjà le réseau paroissial du diocèse de Chartres est achevé, chaque église a déjà son saint. Mais on sait par ailleurs qu'on peut parfaitement changer les vocables des églises. Mais ça n'est pas aussi fréquent que cela. Par contre, Ce que l'on sait bien, alors, c'est que, eh bien, Saint Thomas Becket entre dans les collections hagiographiques du diocèse de Chartres. C'est-à-dire qu'on va, avec ses reliques, et tout spécialement les reliques données par Jean de Salisbury, eh bien, assister à des miracles. Et évidemment, c'est une situation extrêmement enviable, a priori, hein, que ce saint venu de loin soit soudain promu au un rang de grande puissance thaumaturgique, ici, à Chartres. Mais en fait, on est étonné quand on examine ces textes et qu'on examine par ailleurs l'ensemble des textes relatant les miracles intervenus soit au nom de Saint Thomas Becket, soit au tombeau de Saint Thomas Becket à Canterbury, de constater que nos miracles chartrains n'ont pas été recueillis par les recueils officiels. Il y a là un espèce de mystère que l'historien aime bien affronter, car en fait il n'y a pas de mystère. Ils n'ont pas été recueillis parce que nos clercs anglais savent trop bien ce qui se passe dans le diocèse de Chartres à cette époque, et ils savent que il ne faut pas mêler Thomas Becket aux affaires chartraines.
Poursuivons notre roman policier sur Thomas Becket, son assassinat, ses reliques qui arrivent à Chartres, avec Georges Bonneba.
Oui, nous en sommes arrivés au problème des textes miraculaires. On nous raconte en effet des miracles intervenus à Chartres grâce à la puissance thaumaturgique des reliques de Saint Thomas Becket. Deux récits, ou peut-être trois si l'on veut, sont à prendre en compte. En premier lieu, une lettre de Jean de Salisbury lui-même, vraisemblablement écrite en 1178. Et elle nous raconte un miracle qu'il a lui-même réalisé avec l'aide du couteau de Thomas Becket, concernant le maître des maçons, donc dépendant du comte de Chartres à cette époque, qui travaillait à ce moment-là à l'abbatiale de Saint-Père. Et il nous explique que le maître des maçons, un Anglais, Pierre, mais qui convient d'appeler Peter, tout simplement parce que la lettre précise qu'il est originaire de Canterbury, eh bien, Pierre avait blasphémé et s'était moqué de la puissance thaumaturgique de Thomas Becket. Rentré chez lui, il était devenu muet. Et on l'avait emmené à la cathédrale pour tenter évidemment de résoudre le malheur qui l'avait frappé. Et c'est l'intervention de Jean de Salisbury qui a été déterminante. On avait fait passer le Pierre de Canterbury en question sous la chasse, sous la sainte chasse. On l'avait fait prier le grand saint de la cathédrale de Chartres, Saint Lubin. Saint Lubin ne s'était pas exprimé. Mais par contre, lorsque le bras de Pierre de Canterbury a été touché par le couteau et le reliquaire de Jean, emporté par Jean de Salisbury, il a été guéri et il a chanté évidemment la gloire et les louanges de Saint Thomas Becket. Voilà pour le premier texte. Eh bien, ce texte, curieusement, n'a pas été adopté là-bas, de l'autre côté de la Manche, alors qu'il est écrit par le secrétaire de Thomas Becket, que c'est un personnage digne de foi, qu'il a lui-même réalisé le miracle, au point qu'on peut peut-être douter de l'authenticité de cette lettre retrouvée dans les années 1930 dans les archives de la Bibliothèque Vaticane. Mais nous avons un deuxième récit. Un deuxième récit miraculaire qu'on connaît dans deux versions différentes, une en latin et une en français. Ils proviennent des recueils des miracles de Notre-Dame de Chartres. Et là, cette fois-ci, il s'agit de miracles qui se déroulent dans la campagne. Dans la campagne, mais pas loin de Chartres, à Sours. Il s'agit d'un miracle concernant un paysan dénommé Guillaume de Lavardin, un hameau de la paroisse de Sours, qui avait osé travailler le jour de la fête du saint de la paroisse de Sours. Il avait été frappé de contracture, de paralysie, appelons ça comme on veut, et il avait donc une main bloquée sur la gerbe d'avoine qu'il était en train de scier, et l'autre main sur le manche de la faucille avec laquelle il travaillait. On l'emmène, constatant son état, dans l'église paroissiale, et là, le saint de la paroisse, Saint Germain, ne se manifeste pas. Offensé. On l'emmène à la cathédrale de Chartres et là, comme tout le monde, hein, parce que c'est le principal objectif de la grande majorité des pèlerins, on l'emmène à la chasse de Saint Lubin, il lui reste un bon moment dessous et là, Saint Lubin ne se manifeste pas. On l'emmène au buste reliquaire de Saint Lubin et Saint Lubin, là, ne se manifeste pas. Mais le gardien du trésor de la cathédrale, un chanoine forcément, hein, vient avec le couteau de Thomas Becket, touche la main gauche, la gerbe tombe, touche la main droite, la faucille tombe. C'est ici la manifestation, une nouvelle fois, comme dans le cas de la lettre de Jean de Salisbury, eh bien, une manifestation de la toute-puissance thaumaturgique de Saint Thomas Becket. Mais excusez du peu, l'historien est en droit de se demander comment se fait-il que Thomas Becket ait une puissance thaumaturgique, lui qui vient tout juste d'être canonisé en 1173, soit bien supérieure à celle des vieux saints de la cathédrale de Chartres. Saint Lubin, entre autres, mais aussi Saint Germain. En fait, derrière tout cela, qu'est-ce qui se cache? Ben, qu'est-ce qui se cache? Il se cache qu'on est en train, à Chartres, à cette époque, de liquider une expérience spirituelle tout à fait originale. Cette expérience spirituelle tout à fait originale, c'est celle qui a consisté à placer la lèpre ou du moins ce qu'on appelle lèpre à l'époque, hein, au centre des préoccupations communes du clergé et des laïcs. Le diocèse de Chartres a été, pourrait-on dire, aujourd'hui, pilote en la matière. Encouragé d'ailleurs dès le début du XIIe siècle par Robert d'Arbrissel, hein, un des grands spirituels de cette époque, et poursuivi par l'évêque Geoffroy de Lèves, puis son neveu, l'évêque Jocelyn de Lèves. Mais encouragé aussi par Thibaut IV, le comte de Chartres, de Blois et de Champagne, et par son fils Thibaut V, le comte de Blois, de Chartres et de Champagne. Tous les textes nous racontent leur dévotion de ces gens. Nous disent qu'ils ne manquaient jamais de venir voir ces chers lépreux, enfin leurs chers lépreux, à la léproserie du Grand Beaulieu. Or, au concile de Latran III, en 1179, étaient présents Pierre de Celle, le futur évêque, Jean de Salisbury, l'évêque. Et ce concile de Latran III, dirigé par Alexandre III, a mis un terme à cette fréquentation des clercs et des laïcs dans ces lieux un peu bizarres où l'on mangeait beaucoup, où l'on buvait beaucoup et où souvent hommes et femmes, malades soi-disant, étaient mélangés. Ça faisait beaucoup à supporter. Eh bien, si on a nommé Jean de Salisbury évêque de Chartres, puis Pierre de Celle évêque de Chartres, il était très bien là où il était, abbé de Saint-Rémy de Reims, c'est pour mettre un terme à ces désordres au moins apparents. Voilà. Or, quand on vient regarder maintenant les textes qui sont là devant nos yeux, les textes miraculaires, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate qu'on s'en prend aux deux saints qui participent précisément de cette expérience spirituelle originelle. On s'en prend à Saint Germain, qui était celui qui conduisait la procession d'entrée à l'intérieur de la léproserie du Grand Beaulieu. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que le vitrail de Saint-Germain d'Auxerre, évidemment, se trouve en place au collatéral nord du chœur. En face, d'ailleurs, d'un vitrail qui évoque justement la léproserie du Grand Beaulieu à Chartres. Mais aussi, évidemment, le plus grand, c'est Saint-Lubin, qui est le saint des lépreux par excellence.
Merci Georges Bas de nous avoir présenté la vie de Thomas Becket comme un véritable roman policier. On vous écouterait encore pendant des heures. Voici une nouvelle manière de lire les vitraux et on vous remercie beaucoup. Et on vous dit à bientôt, peut-être pour une nouvelle émission. Et on va peut-être lire le vitrail de Thomas Becket. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.